cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre émission 100% locale, toujours Cultivons notre jardin. Donc émission présentée par Nat et Jackie, Jackie juste en face de moi, et nous vous parlons de jardinage au naturel, mais pas que. Salut Jackie, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, on va dire que ça va bien, parce que la saison au jardin s'avance comme il faut, donc on est plutôt optimiste. Et toi, raconte-nous.
Oh ben, moi, ce temps de cochon me rend un peu grognon, mais bon, on va faire avec. Hein.
C'est bon. Quand c'est beau, c'est bon pour le jardin. Et quand il fait moins beau, c'est bon pour le jardin. Donc, le jardinier doit toujours être content du temps.
On avait besoin d'eau. Je suis très contente qu'il pleuve tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Jackie, pour cette 16e émission du Nom ?
Eh bien, écoute, on va parler de la pratique, hein, toujours, en début d'émission, comme ça, pour voir ce qu'il y a à faire au jardin. Et dans ce cadre même de la pratique, j'ai envie de te parler aujourd'hui de la graine. Nous semons et allons semer quantité de graines au potager. C'est l'occasion, il me semble, d'aborder le sujet. Et de ton côté, de quoi as-tu envie de nous parler ?
Pour faire suite à ton sujet, Jackie, et puisque le soleil nous boude, je voulais réparer un peu avec une belle idée, comme souvent autour de l'alimentation, mais cette fois avec des fleurs comestibles.
Eh bien, joli programme.
Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut manger de plus que les légumes et les fruits au jardin.
Cultivons notre jardin.
Donc, Jackie, pour commencer, tu pourrais peut-être nous dire un petit peu ce qu'on a à faire au jardin en ce moment. Et si tu regardes un petit peu du côté de la lune, qu'est-ce que ça te dit, au grand mage, Jackie ?
Comme d'habitude, hein, je m'inspire effectivement du calendrier lunaire pour la quinzaine qui va venir. Sachez que les 24 et 25 mai sont de bons jours pour les légumes racines. Les 26 et 27, c'est autour des légumes fleurs. Et du 28 au 30, c'est idéal pour les légumes feuilles. Les 31 mai et 1er juin, tu t'occupes des légumes fruits. Et du 2 au 4 juin, tu peux encore semer des légumes racines.
OK.
Alors, la période est favorable pour le semis des haricots. Hein, les haricots, on dit que ça se plante à la Saint-Didier.
À peu près.
Voilà,
c'est
à peu près.
C'est pour la rime.
Hein, donc, non, c'est parce que la date du 23 mai correspond à, normalement, des fins de gelée. Il faut savoir que les haricots, il leur faut quand même une bonne température pour démarrer tôt. Donc, les nuits sont encore un peu fraîches. Donc, bien attendre fin mai, début juin, pour semer les haricots. Ça sert vraiment à rien de les semer trop tôt. Tu peux aussi planter des cucurbitacées.
Répète voir.
Des cucurbitacées.
Merci,
voilà,
Jackie.
C'est mieux. Hein. D'habitude, je dis des cornichons, des concombres.
Plus
et
facile.
Ça va mieux. Souvent, c'est des plantes qu'on peut acheter en plant, qu'on peut avoir en troc. Hein, dans les troc-plantes, ça se fait beaucoup. Sachez que vous pouvez aussi les semer directement sur place en mettant une bouteille en plastique pour faire un effet de serre. Comme ça, on augmente les chances de réussite.
Ah oui, ça va l'aider en ce moment parce qu'il fait quand même pas très chaud.
Alors, je te rappelle aussi qu'il faut essayer de pailler au fur et à mesure des plantations. Alors, tout ça pour commencer à penser à limiter l'évaporation d'eau pour l'été.
Oui, et donc limiter l'arrosage. Il faut y penser dès à présent, exactement.
Au fur et à mesure qu'on va au jardin.
Ouais, au fur et à mesure, c'est ça. Bon, tu avais prévu de nous parler de la graine, Jackie, pas de la lune.
Oui, alors, de manière naturelle, les plantes se reproduisent de quatre façons distinctes. Par le drageonnage, par le marcottage, par le bouturage ou par le semis. Quelques petites explications, hein, quand même.
Oui.
Le drageonnage se concrétise par la faculté de la plante qui consiste à émettre des bourgeons à partir de ses racines. Hein. Ça s'appelle des drageons derrière.
Voilà, là c'est sous terre, c'est de sous terre que ça part.
Voilà, le marcottage intervient lorsque des racines poussent à partir d'une tige de plante à l'endroit où elle touche le sol.
Comme la fraise, hop hop.
Voilà, avec ses petits stolons. Le bouturage s'effectue accidentellement, par contre, à partir d'un morceau de plante détaché du pied-mère. Je parle toujours de façon naturelle, puisqu'on peut le faire aussi soi-même.
Hein. Oui.
Ces trois façons de créer de nouvelles plantes consistent à obtenir en fait un clone possédant les mêmes caractéristiques que la plante mère. La graine, elle est obtenue souvent par reproduction sexuée. Elle est le plus souvent contenue dans un fruit issu de la pollinisation croisée du pollen fourni par les étamines, l'organe mâle, et du pistil qui constitue l'organe femelle. Cette pollinisation peut être consécutive à un croisement de fleurs différentes, ce qui explique que la plante qui sera issue de graines peut avoir des caractéristiques différentes de la plante mère.
Ok, mais la pollinisation, ce sont quand même principalement les abeilles qui vont la mettre en place.
Absolument, on a besoin des abeilles. Hein. 70% du règne végétal sont représentés par des plantes à fleurs. Les fleurs sont des organes sexuels des plantes, en fait. Hein. Ces dernières ne pouvant se déplacer, elles ont besoin du vent ou des insectes pour acheminer le pollen des étamines au contact du pistil. Il faut savoir que 80% des plantes à fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire. Les autres sont pollinisées grâce au vent ou aux autres animaux. La plante use de stratagèmes pour parvenir à ses fins, par la couleur de ses fleurs, par son parfum, par ses formes, par son nectar, autant d'éléments susceptibles d'attirer les différents insectes qui vont aider à la pollinisation.
Oui, en fait, les plantes, elles font une espèce de leurre sexuelle pour les insectes, de manière à être pollinisées à l'insu des insectes, en fait. Hein. C'est pas très cool, quand même. Hein. Elles abusent un peu, les plantes, hein, des fois.
Oui, bon, on connaît ça même des fois au niveau des humains. On va pas s'étaler là-dessus.
T'as raison. On va faire simple.
Alors, je peux quand même donner quelques exemples.
Oui. Mais
justement, dans ce que tu dis, il y a une orchidée qui s'appelle l'Ophrys apifera,
oui.
Donc qui imite à s'y méprendre l'abeille femelle et invite à la copulation. La plante fabrique même parfois des phéromones identiques à celles de la femelle de l'insecte qu'elle cherche à attirer. Ainsi, le mâle va venir dessus, il va se couvrir de pollen et quand il va aller sur une autre fleur, eh ben, il va faire la fécondation.
Ouais.
Le tournesol, lui, multiplie ses chances par un groupement de fleurs. Il est de la famille des composés. Le tournesol, en fait, on dit toujours une fleur de tournesol, on devrait dire 300 fleurs de tournesol. Hein. On voit en fait qu'il y a des bractées autour qui sont des faux pétales. Ces pétales jaunes qu'on voit, ce sont des bractées, mais pas des pétales. Et chacune de ces fleurs est toute petite au milieu. Et en fait, c'est pour ça que sur chaque fleur, on va avoir une graine et qu'on peut, sur un tournesol, avoir à peu près 300 graines.
Ah, c'est pour ça.
C'est pour ça. La pollinisation peut être forcée par l'homme en croisant volontairement le pollen d'une plante choisie avec les fleurs femelles d'une autre plante de la même espèce. C'est ce qui se passe avec la création d'hybrides de première génération, hybrides et fins. Le maïs en est un bon exemple. On en a déjà parlé dans des émissions un petit peu lointaines maintenant déjà. Le noisetier, quant à lui, il utilise le vent pour disséminer à partir de ses chatons son pollen léger, fin et lisse, facilement porté par l'air, comme le font d'autres plantes comme les saules, les bouleaux, etc. Ces plantes qui ont des chatons, en fait, le chaton, c'est un ensemble de fleurs mâles qui va donc créer beaucoup de pollen, parce qu'il faudra beaucoup de pollen, puisque, en fait, c'est moins bien ciblé qu'avec un insecte par le vent.
Par le vent.
Voilà.
Enfin, les plantes s'arrangent toujours pour arriver à fonctionner avec ce qui les entoure, voire à s'aider de ce qui les entoure. Ça, c'est une bonne chose. Et puisqu'on y arrive, ce serait bien que tu nous parles de la fécondation, Jackie.
Alors, la pollinisation étant accomplie, c'est la fécondation qui va commencer. Hein. L'ovule se développe dans l'ovaire et devient peu à peu une graine, incluse ou non, dans un fruit, un peu à la manière d'un œuf, où on a le jaune à l'intérieur. Cette graine va pouvoir donner naissance à une future plante. Elle contient une partie du patrimoine génétique de la plante mère et une partie du patrimoine génétique de la plante père. Comme nos enfants.
Pareil. Voilà la reproduction de la plante expliquée en deux mots par Jackie. C'était très clair. Par contre, je crois que je commence à comprendre pourquoi certaines graines doivent être achetées.
Eh bien oui, parce que effectivement, quand on veut être sûr de la plante qu'on veut obtenir, eh bien, il faut mettre en œuvre tout un tas de pratiques. Hein. Les graines issues des plantes hybrides ne te donneront pas satisfaction, car le résultat est très aléatoire. Hein. Mmh. Les graines de plantes fleuries ne te donneront pas obligatoirement la même couleur que la plante dont elles sont issues,
ouais,
à cause justement de la potentialité de pollinisation croisée.
Mais oui. Et comment je peux savoir si il me reste plein de graines, moi, au fond de mon placard, comment je peux savoir si elles sont bonnes ou pas encore ?
Alors, les graines sont vivantes. Hein, c'est extraordinaire de voir ces petits éléments tout secs comme ça. Il faut savoir que le merveilleux, c'est qu'il y a la vie à l'intérieur. Et alors, ce temps de vie est variable dans le temps selon les espèces. Mm-hmm. Cela tient à deux choses. La spécificité variétale, ou tu vas me le faire répéter, la spécificité
la
variétale.
La variété, quoi.
Et le mode de conservation.
Oui.
Je te vois faire l'œil interrogateur.
Uh-huh.
Certaines espèces et certaines variétés de plantes auront des temps de conservation différents. Par exemple, la graine de pané ne se conservera qu'un an, alors que la graine de tomate pourra attendre 5 ans et le genêt plus de 25 ans.
Ah, c'est coriace, le genêt, il n'y a pas à dire, même au niveau de la graine. Hein.
Oui, c'est fait exprès parce que c'est une plante qui va résister au feu. Et donc, pour qu'il résiste au feu, il faut qu'il y ait une cuticule qui soit très importante dessus, qui va donc mettre un temps à se décomposer.
Alors, un clin d'œil à nos amis paysans éco-bueurs. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour les conserver ? Parce que tu nous as dit que la méthode de conservation est importante pour nos graines. Alors, on les range où, au frigo ?
Alors, le mieux, en fait, hein, c'est de maintenir tes graines bien rangées. Alors, dans des petits sachets en papier.
Oui.
Alors, pourquoi des petits sachets en papier ? Parce qu'il ne faut absolument pas qu'il reste de l'humidité, hein, pour ne pas qu'il y ait des moisissures qui se développent. Et donc, s'il en reste un tantinet, eh ben, ça sera absorbé par le papier. Il faut bien les étiqueter. Alors, bien étiqueter, ça veut dire que je mets dessus la variété et surtout l'année de récolte.
Hein, oui.
Comme je disais tout à l'heure, comme il y a un temps défini pour chaque variété, c'est important d'avoir ça. Alors après, ensuite, je les mets dans un endroit bien sec, peu éclairé et frais. Alors, ce n'est pas obligatoirement le frigo, ça peut être la petite cabane de jardin si elle reste au frais, ça peut être dans la cave, dans le garage, etc. Des endroits qui ne sont pas trop à la lumière et bien au frais. Mais effectivement, ce n'est pas du tout gênant de ranger ça dans un réfrigérateur.
D'accord. Non, j'avais vu des gens faire ça. Ben ok, pourquoi pas. Bon, ben...
Ça va activer la germination au moment où on va faire un changement de température, un peu comme une saisonnalité. En fait, si on les a maintenus bien au frais au frigo, des fois, ne serait-ce que 15 jours avant de les semer, ça fait une espèce d'hiver. On va les sortir, ils vont se prendre 20 degrés d'un coup et ça va accentuer la germination.
Ah, c'est intéressant, c'est un petit truc sympa. Merci,
voilà.
Jackie. Donc, les graines, avant de les semer, vous les laissez 15 jours au frigo et ça va les aider. Très bien. Bon, ben voilà, on a parlé des graines, et ben la suite logique, c'est maintenant que je vous parle des fleurs, finalement.
Et ben finalement, hein, pour avoir des fleurs, il a bien fallu partir de graines.
Et on est bien d'accord.
La poule et l'œuf.
Et moi, je voulais parler des fleurs, mais des fleurs comestibles, cette fois-ci. En effet, l'utilisation des fleurs dans les plats cuisinés remonte à des milliers d'années chez les Chinois, les Grecs, les Romains. Beaucoup de cultures utilisent les fleurs encore aujourd'hui dans leur cuisine traditionnelle. Alors, les fleurs de courge typiques de la cuisine italienne, ou même on peut penser aux pétales de rose qu'on voit régulièrement dans la cuisine indienne. Alors, ajouter des fleurs à vos aliments, ça peut être un bon moyen d'y ajouter de la couleur, de la saveur et un peu de fantaisie. Si certaines sont épicées, d'autres auront plutôt un goût herbacé, alors que encore d'autres seront plutôt florales en termes de saveur et parfumées. C'est vraiment une gamme très riche et très surprenante. Voilà, on peut utiliser les huiles de fleurs dans les salades, dans les thés, pour garnir les desserts, mais on peut aussi s'en inspirer sur des utilisations créatives. On peut faire des rouleaux épicés, comme des fleurs de ciboulette. On peut incorporer les fleurs dans la crème glacée maison, ça peut être très joli. On peut faire des marinades de bourgeons floraux, comme la capucine ou l'ail des ours. Et puis, on peut les utiliser tout simplement pour faire un sirop floral, pour mettre dans une limonade ou un cocktail.
D'accord. Mais alors, toutes ces fleurs ne sont pas bonnes quand même, voire même, il me semble qu'il y en a des non comestibles.
Effectivement, aussi charmant que manger des fleurs peut l'être, cela peut être aussi un peu mortel, tout simplement.
Un peu mortel.
Tout simplement, un petit peu. Alors, ce n'est pas pour vous effrayer, simplement, c'est pour vous donner quelques conseils pour manger des fleurs en toute sécurité. Voilà. Si vous mangez une fleur, c'est que vous savez bien sûr qu'elle est comestible. Vous en êtes complètement certain. Sinon, si vous n'en êtes pas complètement certain que c'est bien la bonne fleur et qu'elle est bien comestible, ben, n'hésitez pas à consulter un ouvrage de référence sur les fleurs.
Peut-être même les pharmaciens, comme pour les champignons, non ?
Ah, on peut essayer les pharmaciens. Ouais. Hein. Après, ça dépend un petit peu des aptitudes et de chacun.
Ils ne sont pas tous herboristes.
Mais ce n'est pas une mauvaise idée de vérifier auprès d'un pharmacien. Voilà, l'idée, c'est aussi quand même de manger des fleurs que vous avez vous-même cultivées, parce qu'au moins, vous savez ce que vous mangez. Ça, ce n'est pas inintéressant non plus. Faut savoir que les fleurs que vous achetez chez les fleuristes, enfin, il vaut mieux pas les manger quand même, hein, parce que là, pour les conditions de production, on ne peut pas le vérifier, on va dire. Voilà, sinon, le principe, c'est plutôt de manger les pétales uniquement. Hein. On enlève les pistils et étamines. Voilà, si vous souffrez d'allergie, attention, ne mangez pas les fleurs, c'est pas la peine. Elles peuvent exacerber les allergies, tout simplement. Et pour petit conseil de conservation, hein, tout à l'heure on a vu comment conserver les graines, on parlait du frigo, ben là c'est un petit peu pareil. Pour conserver des fleurs fraîches, vous pouvez les placer sur un papier absorbant et humide et les mettre dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Et on peut les conserver jusqu'à une dizaine de jours de cette façon. Voilà.
Mais écoute, c'est déjà bien. Alors, moi, il me semble que ce serait utile pour nos auditeurs que tu nous donnes des exemples bien précis par fleur, par exemple.
Oui, alors je vous ai trouvé plutôt des exemples de fleurs qu'on peut trouver par chez nous, à Yettre. Dans la nature, on a le bleuet. Tu savais qu'il se mangeait le bleuet ?
Ah non, je ne savais pas.
Bon, et ben voilà, il a un petit peu un goût d'herbe. Peut-être pour ça qu'on ne le sait pas trop, mais on peut le manger. Donc, on mange les pétales du bleuet.
Voilà. C'est joli en plus, quand même.
C'est très joli le bleuet, c'est une très belle fleur. La bourrache, qui n'a pas une très belle plante à mon goût, mais qui a une très belle fleur si on la regarde de près. Oui. Et là, on peut manger les petites fleurs bleu mauve, on va dire. Et elles ont un goût de... Alors, certains disent de concombre. J'ai entendu que ça avait un goût d'huître. Voilà, ça dépend un petit peu des gens, on va dire.
C'est intéressant parce que la bourrache est une plante très, très intéressante au jardin. Elle attire beaucoup d'insectes. J'en reviens à mes pollinisations, oui. Etc. Et donc, c'est une façon aussi de l'utiliser, effectivement, de mettre ces jolies fleurs sur la salade.
Voilà, et puis vous la partagez avec les insectes dans votre jardin. Un peu pour chacun. On a le souci qu'on appelle aussi calendula. C'est quoi ça, calendula ?
Alors, calendula, c'est le nom scientifique hein, du souci. Beaucoup de gens utilisent des produits dans des crèmes de beauté, dans des... Il y a tout un tas de produits pharmaceutiques comme ça, où on voit calendula. Mmh. Et on utilise le calendula sans savoir que c'est une plante assez banale chez nous,
oui,
qu'on appelle le souci.
Le souci. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble, le souci ? C'est assez bas comme fleur. Il y en a des oranges, il y en a des jaunes, et ça fleurit énormément, un petit peu de forme marguerite, on va dire.
C'est ça.
Voilà, c'est une fleur qui est excellente à manger. Elles sont les fleurs de calendula, donc sont poivrées, piquantes et épicées. Et leur couleur dorée et vibrante ajoute une touche à n'importe quel plat. Dans une petite salade, sur une tartine de fromage, c'est très joli les pétales de souci.
Ouais, c'est doré comme couleur.
Ouais, en fait. C'est très beau. On a les œillets aussi. Moi, je ne savais pas que l'œillet pouvait se manger. Eh bien, si. Les pétales sont sucrés s'ils sont prélevés loin de la base. Et les fleurs ont le même goût que leur arôme, sucré et parfumé.
D'accord.
Une autre fleur, j'apprends plein de choses en préparant cette émission, Jackie. C'est le glaïeul. Bon, qui l'aurait cru ?
Oui, on n'a pas l'habitude de le voir sous cette forme. Oui.
On ne le voit pas très souvent. Et en fait, on peut le farcir, le glaïeul. C'est joli, hein, un glaïeul farci. Ouais. Ou bien, on peut prélever uniquement les pétales pour faire une garniture de salade aussi très intéressante.
Oui, mais c'est effectivement, quand on l'imagine maintenant, le glaïeul farci, comme on peut faire avec des fleurs de courgettes, hein, oui. Des beignets ou des... Voilà, d'accord. Ok, c'est enregistré.
Donc, à essayer, à tester le glaïeul quand même. S'il y a des auditeurs qui veulent tester et nous dire un petit peu, c'est avec plaisir que vous nous faites vos retours hein, sur redac@48fm.org. On partagera nos expériences sur la dégustation de fleurs. Alors ensuite, nous avons la pensée sauvage. Il y en a plein en ce moment, un petit peu partout. Alors, adorables et délicieuses, les fleurs ont une subtile saveur de menthe et elles sont bien adaptées pour les salades de fruits aussi et les boissons.
Impeccable, voilà. On peut aller sur l'Aubrac en chercher. Hein.
Il y en a plein. La lavande aussi. Alors, on a de la lavande sauvage en Lozère, hein, pour info. Et les fleurs de lavande, elles sont sucrées, épicées et parfumées. Les fleurs sont un excellent ajout à des plats aussi bien salés que sucrés.
Oui, moi, j'ai des amis qui font ça avec des petits sablés. Et ils mettent de la lavande dedans. C'est C'est incroyable.
Alors, si tu rajoutes du chocolat... tu...
Et que tu passes pas sur la balance.
Personnellement, je fais des petits gâteaux lavande-chocolat. C'est exceptionnel, les deux ensemble.
Eh bien, j'essaierai.
T'essaieras, Jackie. Allez, on a la verveine aussi qui se mange, les fleurs de verveine. Les fleurs blancs cassées sont minuscules et elles ont un goût qui évoque le citron. Elles sont excellentes pour l'été et le dessert. Pour l'été, en deux mots. Enfin, l'été, le truc qu'on boit, quoi.
Voilà.
Voilà.
On pas a celui le... qui vient.
Non, pas l'été qui arrive à grands pas, bien sûr, on le voit arriver. Alors ensuite, le lilas. Celle-là non plus, je ne savais pas qu'on pouvait la manger. Alors, le lilas, j'ai pas goûté. On nous dit, les fleurs sont piquantes, mais l'arôme floral d'agrumes se traduit par sa saveur aussi. Ah. Donc, un bon goût de fleurs, quoi.
Eh bien, on pourra essayer aussi.
Il faut qu'on essaye le lilas aussi. Voilà. Alors, la capucine. Alors, ça, c'est une des fleurs comestibles les plus populaires. Les fleurs de capucine sont brillamment colorées avec une explosion de saveurs douces et florales et une finition de piment. Quand les fleurs montent en graines... La gousse est une merveille sucrée et épicée. Et on peut aussi farcir les fleurs de capucine. On peut sinon ajouter les feuilles aux salades, confire les bourgeons. Enfin, on fait un peu tout avec la fleur de capucine. C'est super.
Une plante à avoir au jardin aussi, alors.
Complètement. Et puis en plus, la capucine, elle a un intérêt par rapport aux insectes, hein,
oui,
Jackie.
Oui, alors non seulement elle attire les insectes, mais elle va aussi attirer les pucerons. Et des fois, c'est bien de mettre 2-3 pieds de capucine en bout des rangs de haricots. Ça évite que les pucerons viennent se mettre sur les haricots.
Voilà, elles vont préférer la capucine. Et puis c'est très joli, les capucines. Voilà, on a la rose aussi. Alors ça, c'est un petit peu plus connu aussi. Toutes les roses, en fait, sont comestibles. Voilà, on prélève que les pétales, hein, pareil, et elles auront une saveur plus ou moins prononcée en fonction des variétés. Là, pareil, pour la rose, bien évidemment, contentez-vous de celle que vous avez vous-même cultivée. Et puis voilà, hein, les roses, on va les retrouver dans des boissons, dans des desserts, des confitures, du confit de rose, de la glace à la rose, j'ai goûté une fois.
Des loukoums.
Eh oui, bien sûr, en Turquie, les loukoums à la rose, évidemment. Oui.
C'est incontournable.
Effectivement. Le tournesol aussi, tu nous en as parlé tout à l'heure, oui. Jackie, de 300 fleurs par fleur de tournesol. Et ben en fait, on peut consommer les pétales, donc qui n'en sont pas, hein, comme tu nous disais, mais bon, c'est plus facile à comprendre pour les gens. Et le bourgeon, figurez-vous qu'il peut être cuit à la vapeur comme un artichaut, en fait, le bourgeon du tournesol.
Avant tu l'as goûté, ça, déjà ? Avant qu'il se développe en fleurs, quoi, donc. Oui.
Probablement.
Eh bien, j'ai jamais goûté.
Allez, voilà. Encore un truc à essayer.
On va manger des choses cet été.
Bon, ben je finirai avec la violette. On en a un petit peu partout, un peu comme la pensée sauvage en ce moment. Hein, c'est à la même période. Donc la violette, très connue du côté de Toulouse, elle est effectivement comestible. Les violettes sont sucrées et magnifiques comme ornement. Et en fait, vous pouvez utiliser les fleurs dans les salades ou bien pour embellir les desserts et les boissons. Ou bien faire des bonbons à la violette si vous avez envie de faire des bonbons à la violette.
À ce propos, dans un petit restaurant du centre-ville de Saint-Enimy, j'ai aussi goûté les fleurs de rose trémière. Et alors là, au niveau déco sur une salade, c'est vraiment, vraiment top, quoi. C'était très, très joli d'utiliser ces fleurs.
Mais j'ai vu ça aussi que c'était comestible, mais j'ai jamais goûté la fleur de rose trémière. Mais par contre, je ne l'avais pas listée, en fait, tout simplement, ou plutôt je l'avais blacklistée. La rose trémière, alors que je l'aime beaucoup. Mais là, je l'avais mise de côté parce que dans ma référence, on disait qu'elle avait une saveur plutôt amère.
Oui, mais l'amertume dans une salade, c'est pas mauvais. Hein. On se fait des salades de pissenlit. Moi, j'aime bien la roquette, etc. Donc, ça apporte aussi un petit quelque chose. Et dans une salade composée, on peut très bien aussi, justement, mélanger ces saveurs un peu amères avec du sucré, de la pomme, par exemple, ou autre. Enfin, bon. Voilà, on va avoir des belles salades composées cet été.
Punaise, on va se faire plaisir avec les salades, ça c'est chouette. Bon, mais merci Jackie pour cette expérience rose trémière. Et en plus, c'est vrai que ça peut être très très joli.
Alors voilà, on va arriver à la fin quand même de cette émission. Pour la prochaine émission, je vais quand même vous proposer que nous continuions un peu comme d'habitude dans la pratique, hein, avec ce qu'il y a à faire au jardin. Mmh. Et puis j'aborderai un sujet qui se poursuivra sans doute sur plusieurs émissions. Ça va être le sol du jardin. Je vais parler de la composition du sol, en fait, et de sa biologie. Alors bon, je vais essayer de le faire de façon simple, même si c'est de la biologie.
Cultivons notre jardin.
Et maintenant... maintenant, voici le temps venu du calendrier des activités de jardinage. Jackie, tu as trouvé des trucs à faire un peu par ici?
Alors, j'ai trouvé quelques trucs. Souvent, juillet-août, c'est quand même un petit peu... Tout le monde est dans son jardin, donc il n'y a pas beaucoup de réunions comme ça. Mais enfin, il en reste quand même quelques-unes. Le samedi 25 mai, par exemple, c'est à Rousse, dans les Cévennes, que se déroulera le traditionnel troc plantes et marché artisanal. C'est à partir de 10h du matin. C'est très, très bien organisé. Il y a beaucoup de monde. On peut manger sur place parce qu'il y a le foyer rural qui fait cuire des saucisses, etc. C'est assez sympa. Les associations Jardin Nature 48 et Verger de Lozière y tiendront un stand. Et donc, vous pourrez rencontrer un petit peu tout le monde à ce moment-là, y compris moi.
Oh, Jackie, en chair et en os, ça faisait longtemps. Eh bien, ce samedi 25 mai, puisque tu nous boudes, Jackie, la ville de Mende, en partenariat avec les Jardins Nature 48, toujours, organise un troc plante sous la halle au blé au centre-ville à partir de 14h, donc samedi 25 mai. Et comme on n'a pas pu installer les jardins à cause de la pluie samedi dernier, eh bien, nous allons finir un petit peu plus tôt ce troc plante. À 16h, nous partirons sur les jardins pour avancer un petit peu nos jardins, donc du permis de végétaliser de 14h à 16h. Et ça, c'est le samedi 25 mai à Mende.
Alors, le dimanche 23 juin à 17h, il y a un atelier sur le compost et les extraits de plantes qui est proposé par Jardin Nature 48 à la salle des associations à Mende.
Et ensuite, pour terminer, le lundi 24 juin, dans le cadre du programme local de prévention des déchets Centre Lozère, à Rieutort de Randon, à 18h30, un atelier confection de produits cosmétiques naturels vous sera proposé, avec notamment une huile pour le visage et un déodorant à la coco. Voilà, lundi 24 juin, 18h30, à Rieutort de Randon.
Cultivons notre jardin.
Et bien voilà le point fait sur les activités à venir. Sachez que cette émission « Cultivons notre jardin » est diffusée régulièrement le vendredi et le samedi à 11h et à 17h10.
Voilà, nous espérons que cette émission vous a plu. Vous pouvez toujours réagir et nous laisser vos messages et vos questions par courriel à redac@48fm.org ou sur la page Facebook de la radio. Et si vous décidez de déguster quelques fleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Ça peut être intéressant. Voilà, pour réécouter nos émissions, elles sont toutes disponibles dans la rubrique chronique du site internet de 48FM, 48fm.org. Et voilà, et puisque nous avons parlé de fleurs, la petite chanson de fin d'émission, aujourd'hui, Jackie, c'est le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy. C'est pas beau ça, Flower Power.
on est dans le romantisme.
Voilà, on peut dire au revoir à tout le monde maintenant. Et à la prochaine.
Et à la prochaine.
Au revoir.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qui coûtaient. Petite fille autour de disque fort. leur vie. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que parti.